Europe 1, il est midi. Bonjour à tous.
Europe Midi. Romain Desarbres.
Bienvenue dans Europe Midi, votre grand rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1. Et vous avez la parole, vous le savez. Mais tout d'abord, le journal d'Europe Midi. Avec à la une, évidemment, le déplacement d'Emmanuel Macron à Kiev. Le président de la République s'y est rendu par le train. Il est allé ce matin dans la banlieue de la capitale ukrainienne, à Irpin, où se trouve l'envoyé spécial d'Europe 1, Nicolas Tonev, qu'on va rejoindre dans quelques instants. Les proches d'Emmanuel Macron tirent à boulets rouges sur la NUPES de Jean-Luc Mélenchon, dont le projet économique serait dangereux pour la France. On est à 3 jours du second tour des législatives. Quelle est la stratégie du gouvernement? Les informations de Jacques Serey dans ce journal. La SNCF s'attend à un été de tous les records en termes de fréquentation de ses trains. Il y a une très forte demande et certains trains sont complets. La SNCF a donc décidé de mettre en place des listes d'attente. On va tout vous expliquer. Le niveau en orthographe qui baisse, reportage à suivre dans ce journal. Emmanuel Macron en Ukraine, comme vos commentaires évidemment, est-ce que c'est le bon moment? On en parle avec vous, vous appelez le 3921 et vous passez à l'antenne. Et on sera également avec Othmane Nasrou, vice-président de la région Île-de-France, porte-parole des Républicains. Bonjour Othmane Nasrou.
Bonjour.
Et avec Pierre-Yves Bournazel, chef du pôle élection d'Horizon, le parti d'Édouard Philippe qui va arriver dans quelques instants. Emmanuel Macron est donc arrivé en Ukraine ce matin. Son train est entré en gare de Kiev aux alentours de 8 heures, heure française. À ses côtés, Olaf Scholz, le chancelier allemand, et Mario Draghi, le chef du gouvernement italien. C'est la première fois que le président français se rend en Ukraine depuis le début de la guerre. Et après un bref passage par son hôtel, il a pris la direction de la ville d'Irpin, où l'on vous retrouve, Nicolas Tonev. Irpin, c'est l'un des endroits marqués, évidemment, par les massacres commis par l'armée russe.
Oui, ce quartier d'Irpin que viennent de visiter les différentes délégations est un quartier à l'ouest de la ville qui a été bombardé dès le 26 février dernier, 2 jours après le début de l'attaque russe. C'est un ensemble d'immeubles, d'habitations qui ont tous été touchés, éventrés, brûlés, avec des bombardements qui ont duré des semaines sans interruption. C'est donc l'un des symboles des destructions vécues ici, avec d'autres choses moins visibles qui témoignent. Ce sont les traces de mortiers au sol, les façades criblées d'éclats qui montrent à quel point il était impossible de survivre dans cet endroit pendant la bataille.
Voilà, Emmanuel Macron, ultra protégé évidemment dans Irpin avec des membres de son service de protection rapproché, mais également des militaires des forces spéciales. Emmanuel Macron, aux côtés de Volodymyr Zelensky, une conférence de presse commune est prévue à 14h, dans 2 heures environ. Mais les relations entre les deux chefs d'État se sont quelque peu tendues ces derniers jours, notamment après l'appel du président français à ne pas humilier la Russie. Emmanuel Macron a donc tenu à assurer le peuple ukrainien de son entière solidarité. Écoutez.
Vous êtes ici à Irpin, sur un site qui a été détruit, où en effet l'armée russe a été arrêtée, à côté de plusieurs autres villes où des massacres ont été perpétrés, où nous avons eu les premières traces de ce qui sont des crimes de guerre, sur lesquels nous coopérons d'ailleurs très fortement. Je veux remercier l'ensemble des gendarmes et magistrats qui sont aux côtés des autorités ukrainiennes pour que les crimes de guerre puissent être jugés et que le travail soit fait. Et nous continuerons ce soutien dans la durée sous toutes ses formes. Et il y a aussi le soutien politique, c'est ce que nous avons voulu faire en venant ici à 4 pour à la fois nous rendre compte, témoigner de notre respect et de notre admiration pour le courage des Ukrainiennes et des Ukrainiens et pour pouvoir avoir cet échange avec le président Zelensky et parler de la suite.
Les Ukrainiens n'ont pas compris que vous disiez le mot « il ne faut pas humilier la Russie ».
J'ai déjà eu... Non, c'est pas... Écoutez, j'ai déjà eu d'ailleurs plusieurs fois l'explication avec lui. J'ai toujours été constant. La France est aux côtés de l'Ukraine depuis le premier jour. Et le président Zelensky lui-même a toujours voulu discuter avec le président Poutine. Aujourd'hui, il faut que l'Ukraine puisse résister et l'emporter. Et donc nous sommes aux côtés des Ukrainiennes et des Ukrainiens sans ambiguïté. Et nous avançons.
Nicolas Tonev, que nous retrouvons à Irpin, dans la banlieue donc de Kiev. Nicolas, qu'espèrent les Ukrainiens de cette visite d'Emmanuel Macron ?
Alors les avis sont partagés, il y a toujours ce soupçon vis-à-vis des Européens qui recherchent une solution avec la Russie aux dépens de l'intégralité territoriale du pays. Il y a toujours plus d'attentes en armes envers les États-Unis et la Grande-Bretagne pour recevoir une aide militaire concrète. Et puis avec la visite de cette délégation, il y a aussi ceux qui se disent qu'en fait cela peut servir à faire comprendre à quel point cette guerre a été monstrueuse, parce que certains n'y croient pas encore. C'est ce que pense Vassili, qui habite juste en face des immeubles. C'est très utile, toutes ces visites. Plus il y a de délégations, plus le monde prend conscience de l'horreur de cette guerre, des événements réels, de ce qu'il s'est passé, de cette cruauté. Et parce qu'il y en a encore beaucoup trop qui n'y croient pas, parmi ceux qui n'ont pas vu réellement les dégâts, ceux-là ne se rendent pas compte. Alors après cette visite d'Irpin et leur discussion, Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky tiendront une conférence de presse tout à l'heure à Kiev vers 14h.
Nicolas Toneff, envoyé spécial d'Europe 1 en Ukraine. Emmanuel Macron avait promis de se rendre en Ukraine uniquement si sa visite pouvait être utile. Et ce qui serait utile en ce moment pour les Ukrainiens, ce sont des armes. À cet égard, Emmanuel Macron devrait répondre présent. William Molinier avec nous. Bonjour William.
Bonjour Romain.
Il devrait répondre présent parce qu'une aide militaire supplémentaire devrait être annoncée par le président français. Quelles sont vos informations, William?
Oui, c'est en tout cas ce qu'attend, ce qu'espère le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Il y a 20 jours, la ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna s'était rendue à Kiev au cours d'un entretien avec son homologue. Les contours d'une nouvelle livraison d'au moins 6 canons César ont été posés. 6 premiers avaient été déjà livrés fin avril, de l'artillerie de haute précision mobile qui tire 6 coups par minute jusqu'à 40 km de distance. Ces canons sont déjà utilisés par la 55e brigade d'artillerie ukrainienne dans le Donbass. D'autres livraisons doivent être annoncées dans les prochaines heures, nous a confié hier une source diplomatique de haut niveau. Par ailleurs, selon nos informations, une réflexion a été ouverte concernant d'autres fournitures provenant de France, notamment des batteries de missiles sol-mer. C'est une volonté de l'OTAN de doter l'Ukraine de ce type d'armement. Mais pour l'instant, les systèmes français ne sont pas compatibles avec ceux des Ukrainiens. Les Américains ont annoncé hier une nouvelle aide militaire, des pièces d'artillerie, des obus et des missiles antinavires, montant total de cette nouvelle enveloppe, $1 milliard.
Merci beaucoup William Molinier. Cette visite d'Emmanuel Macron en Ukraine est critiquée par une partie de l'opposition. Invité d'Europe 1 ce matin, le président des Républicains Christian Jacob a estimé que l'obtention d'un cessez-le-feu entre Kiev et Moscou ne passerait pas par une mise en scène, je cite, ce sont ces mots. Il faut dire qu'à 3 jours du second tour des législatives, les partis sont chauffés à blanc. Et dans la majorité, plus le scrutin approche, plus la crainte de ne pas obtenir la majorité absolue grandit. Jacques Serret avec nous. Bonjour Jacques.
Bonjour.
La Macronie, les proches d'Emmanuel Macron, se montre offensive dans ces derniers jours de campagne, principalement contre, on va dire, l'ennemi numéro un, l'ennemi politique numéro un, la NUPES de Jean-Luc Mélenchon.
Oui, toutes les attaques sont concentrées sur un seul homme, ou plutôt contre un seul camp, la nouvelle Union populaire écologique et sociale. L'alliance de gauche est parvenue à se qualifier au second tour dans 385 circonscriptions, et dans la plupart d'entre elles, dans 276 circonscriptions, c'est bien face à un candidat de cette alliance qu'ensemble, la confédération des partis macronistes doit faire face. La gauche, comme principal adversaire, une nouvelle donne pour le camp d'Emmanuel Macron, qu'il y a 5 ans, il a affronté dans la plupart des circonscriptions des candidats les Républicains. Et signe que ce nouveau paramètre brouille les pistes, Elisabeth Borne, la nouvelle première ministre, a dû de nouveau préciser hier soir sur France 2 sa position quant aux consignes de vote pour la 60aine de circonscriptions qui se retrouvent au deuxième tour avec la NUPES et le Rassemblement National.
Aucune voix pour l'extrême droite. Ensuite, il y a des candidats qui défendent les valeurs de la République dans cette alliance de circonstances. Eh bien, ces candidats, on les soutient. Mais quand on a face au Front National, au Rassemblement National, des candidats qui insultent nos policiers, qui sont ambigus sur la laïcité et qui sont en connivence avec la Russie, non, nous n'appelons pas à voter pour eux.
Sans dire toutefois quoi faire. Vote blanc, abstention. Toute la difficulté et le paradoxe de cette situation pour la Macronie, qui se retrouve donc à tirer à boulet rouge contre le camp de Jean-Luc Mélenchon et en même temps expliquer que face à d'autres, en l'occurrence le RN, s'il respecte la République, il ne serait pas si irresponsable que ça.
Jacques Serret, merci beaucoup Jacques. Donc voilà, Emmanuel Macron qui est donc à Kiev, qui a salué l'héroïsme des Ukrainiens. On va continuer à en parler dans Europe Midi, les midi 9.
Europe Midi. Romain Desarbres.
L'autre grosse actualité, celle-là on la vit tous, c'est la chaleur. Il fait encore très chaud aujourd'hui dans toute la France. On pourrait même atteindre la barre des 40 degrés localement dans le sud-ouest. Et la chaleur est toujours plus difficile à supporter quand on est entouré de goudron. Face à ce problème, le groupe Vinci a opté pour un système appelé la Power Road, la route puissante, la puissance de la route. Il est installé, ce système, sous les routes goudronnées. Et il permet à la fois de refroidir le sol et d'utiliser la chaleur récoltée pour chauffer des bâtiments. Vous avez bien entendu. Illustration, explication avec Nina Droff qui s'est rendue au péage de Saint-Arnoult dans les Yvelines.
À l'entrée du péage de l'A10, une route de bitume noir en apparence comme les autres. Mais en dessous, c'est tout un système qui est à l'œuvre, comme l'explique Pierre Montluc, directeur marketing d'Eurovia.
Sous l'enrobé, vous avez comme des serpentins, des tubes, sur 100 mètres de long et 5 mètres de large, donc sur 500 mètres carrés.
Dans ces tubes circule un liquide similaire à celui qu'on peut trouver dans un radiateur qui va emmagasiner la chaleur du soleil.
Et là, à partir du moment où on a un fluide chaud, on va enfouir la chaleur via la géothermie.
Un processus qui permet de rafraîchir l'air et de lutter contre le phénomène des îlots de chaleur.
Comme on va enfouir de la chaleur, on va diminuer la température de notre chaussée. On va baisser d'environ au niveau du sol de 15 degrés. On a besoin de cette fraîcheur, c'est important.
Et une fois enfouie dans la terre, cette chaleur n'est pas perdue, bien au contraire.
L'hiver, comme on aura un gros stockage, on aura boosté ce stockage de chaleur, et bien on va l'utiliser pour chauffer des bâtiments ou déneiger des routes.
Pour l'heure, 7 dispositifs de ce type sont installés en France. 10 autres devraient être mis en place prochainement.
Nina Droff, il est midi 11, restez bien avec nous. Dans un instant, on va parler de cet été record qui se profile en termes de fréquentation pour la SNCF. À tel point qu'un système de liste d'attente est mis en place pour les trains Ouigo. On en parle juste après la pub. À tout de suite.
Europe Midi, Romain Desarbres.
Cela vous est peut-être déjà arrivé. Réserver un billet de train ni échangeable ni remboursable et finalement ne plus pouvoir voyager à la date choisie. Dans ce cas-là, votre siège reste vide alors que d'autres voyageurs auraient voulu acheter votre place. Aurélien Fleurot avec nous. Bonjour Aurélien.
Bonjour Romain.
La SNCF va proposer, à partir de la fin du mois, donc pour cet été, un système de liste d'attente pour ces trains Ouigo.
Exactement. Si vous êtes intéressé par un train précis, mais qu'il affiche complet au moment de votre recherche, eh bien vous pourrez vous mettre sur liste d'attente et espérer être contacté si un passager renonce à son voyage et rend sa place. D'ailleurs, s'il trouve preneur, ce passager qui a changé d'avis pourra récupérer 80% du prix d'achat, alors que jusqu'ici, les billets Ouigo ne sont ni échangeables ni remboursables. Cela vous permettra donc de racheter cette place au tarif normal. Ce dispositif sera disponible via le site et l'application Ouigo. La SNCF le propose grâce à un partenariat avec la start-up Fairline. Et si les premiers retours sont concluants, eh bien, la compagnie pourrait très bien l'élargir à d'autres trains avec réservation, puisque c'est un vrai sujet avec très régulièrement des voyageurs qui ne se présentent pas et la SNCF qui, évidemment, ne peut pas remettre les places en vente. Dispositif totalement d'actualité, puisque la compagnie vient d'annoncer ce matin qu'elle s'attendait à un été de tous les records. 6 500 000 billets déjà vendus, c'est plus 50% sur un an.
J'ai une petite question en plus, Aurélien. Est-ce qu'on saura en quelle position on est dans la liste d'attente? Parce que si on est en 100e position, on a moins de chances d'avoir un billet que si on est en 2e position.
Excellente question, mais je n'ai pas encore la réponse. La SNCF le donnera ça fin juin.
Fin juin, merci beaucoup voilà. Aurélien. Dernière ligne droite pour l'EPR, la centrale nouvelle génération d'EDF. Après des années de déboires, 12 années de retard et un coût multiplié par 3,5, la nouvelle centrale nucléaire entre enfin dans sa phase finale. D'ici un an, le réacteur pourrait être mis en route. C'est un chantier crucial pour EDF puisque le gouvernement a commandé 6 EPR à l'électricien. Il est donc essentiel que cette centrale de Flamanville soit mise en route sans nouveau retard ou nouveau problème technique. Maud Descamps, du service économie d'Europe 1, s'est rendue, vous allez entendre son reportage, sur le chantier à Flamanville dans la Manche.
Attention, tranche 3.
Dans les couloirs du bâtiment qui abrite le réacteur, 3000 salariés et prestataires s'affairent dans les effluves de peinture fraîche. Sous l'immense dôme de béton de 60 mètres de haut, l'heure est aux finitions, le chantier est quasiment terminé, précise le directeur de projet, Alain Morvan.
Nous avons passé 95% donc de niveau de finition. Nous devons finir pour pouvoir démarrer le réacteur de Flamanville 3 au deuxième trimestre 2023.
Mais il reste encore deux défis de taille. D'abord, les soudures pointées du doigt par l'autorité de sûreté nucléaire. 59% ont été réparées. Objectif, les terminer toutes d'ici la fin de l'année. Frédéric est roumain, il fait partie de l'équipe des soudeurs qui guident les super robots qui font les réparations.
Là, nous sommes en train de souder l'extérieur des circuits de vapeur. On fait ça par ordinateur essentiellement, pour guider les robots.
Une fois les soudures réparées, il faudra décrocher le sésame, l'autorisation de charger le combustible, c'est-à-dire les pastilles d'uranium qu'on place dans le cœur du réacteur. Puis ce sera la mise en marche de la centrale dans un an, si tout va bien. Flamanville, Maud Descamps, Europe 1.
Après la philosophie hier, c'est au tour du bac français, du bac de français. L'épreuve a lieu de 14h à 18h cet après-midi pour plus de 380 000 élèves de première. Mais d'année en année, entre dissertation et commentaires de texte, le constat est toujours le même. Les professeurs n'en peuvent plus de corriger les fautes d'orthographe des élèves. Louise Salé avec nous. Bonjour Louise.
Bonjour Romain, bonjour à tous.
À qui la faute ?
Alors sans doute au numérique. En 2015, les dictées comportaient presque deux fois plus de fautes que dans les années 1990 à l'arrivée d'Internet. Pour la professeure d'université Aude Denisot, les élèves écrivent de moins en moins à la main, ce qui les amène à moins s'attarder sur le fonctionnement des règles d'orthographe au sein d'une phrase. Et c'est un problème amplifié, notamment par les photocopies distribuées dans les petites classes.
Je vais prendre un exemple avec une faute qui est très fréquemment commise par les étudiants, c'est celle du A à accent. Quand on distribue un exercice à trous sur A à accent, l'enfant, il a plus vite fait de la remplir au hasard, puis de corriger ce qui est faux, plutôt que de réfléchir vraiment à la bonne réponse.
Outre cette écriture manuscrite, c'est la relecture aussi qui se perd. Les jeunes échangent aujourd'hui à toute vitesse. Et pour les conversations plus formelles, eh bien c'est le correcteur qui fait le travail. Étienne Gomez enseigne le français dans un lycée en Seine-Saint-Denis.
Les élèves partent du principe que c'est rattrapable par la machine. Donc parfois, je leur donne des recherches à faire sur ordinateur. Et à chaque fois, je les vois guetter la ligne rouge qui signale une faute. Et à partir de là, ils cliquent droit pour voir les suggestions de la machine.
Et si au bac de français, l'évaluation du fond est prioritaire sur la forme, les fautes d'orthographe peuvent occasionner des points en moins.
Louise Salé, merci beaucoup Louise. Midi 18, la météo avec vous, Anissa Haddadi, avec 23 départements en vigilance orange canicule.
Oui, alors ces 23 départements se situent entre l'Ariège et les Pays de la Loire, sur une grande moitié ouest du pays, sans oublier la Drôme et l'Ardèche concernés par cette vigilance orange canicule, avec des températures toujours plus élevées. Le thermomètre continue de grimper aujourd'hui, avec ce seuil fatidique des 40 degrés qui devrait être atteint du côté de Carcassonne aujourd'hui, 39 à Nîmes, 38 à Toulouse et Bordeaux, 35 pour Limoges, 33 à Rennes, 32 degrés à Clermont-Ferrand et Besançon, 31 pour Paris et Bastia, 28 à Amiens et 26 à Caen. Les températures vont continuer de grimper pour vendredi et samedi. Samedi qui sera la journée la plus chaude de la semaine. Dans le ciel, pas grand chose à vous signaler, à part un soleil radieux et un léger voile nuageux le long de la façade atlantique.
Merci Anissa. Midi 19, restez bien avec nous dans Europe Midi. Dans un instant, on va commenter ce déplacement d'Emmanuel Macron, Olaf Scholz et Mario Draghi. En Ukraine, on le vit ensemble avec notre envoyé spécial Nicolas Toneff, avec vous au 39-21 et avec Otman Nasrou, vice-président de la région Île-de-France, porte-parole des Républicains et Pierre-Yves Bournazel qui nous a rejoint. Bonjour.
Bonjour.
Chef du pôle élection d'Horizon, le parti d'Édouard Philippe. À tout de suite.